le 13-14. Bruno Duvier.
Emmanuel Macron a donc présenté ce matin depuis la salle des fêtes de l'Élysée le plan France 2030. Objectif, refaire de la France une terre d'innovation, rebâtir l'indépendance productive de notre pays. Cela passe par 30 milliards d'investissements, 7 milliards et demi dans la biomédecine, 4 milliards dans les transports du futur, 6 dans les semi-conducteurs, l'hydrogène vert aussi, 2 milliards pour mieux manger et 1 milliard pour le nucléaire. C'est de cela que nous allons parler en particulier avec notre invité. Bonjour Thomas Gassilou.
Bonjour Bruno Duvier.
Député Agir du Rhône, vous faites partie de ces députés dans la majorité qui suivent ces questions de près. D'abord, vous, les députés de la majorité, maintenant, vous allez être chargés de relayer la bonne parole après ce plan France 2030. Quels arguments allez-vous utiliser pour dire les bons choix ont été faits? On a entendu dans le journal de 13h Philippe de Sertine, qui n'est pas un économiste franchement anti-macroniste, dire c'est pas les bons choix qui ont été faits, il fallait miser sur le cloud, sur la data, là c'est trop de saupoudrage. Vous, comment allez-vous défendre ce plan?
Alors, non seulement on défend ce plan, mais on a participé également à sa co-construction, puisqu'on est en contact en permanence avec l'exécutif et qu'on construit les politiques publiques avant même qu'elles arrivent à l'Assemblée. Je crois que ce plan, il faut le voir comme un plan qui tire les enseignements de la crise sanitaire, qui a montré des points extrêmement positifs pour notre pays, notamment la robustesse de son modèle social. Quand l'État veut, l'État peut. Mais il a montré également des faiblesses et notamment des dépendances technologiques. Oui. Et dans un monde qui bouge, où on a de nombreux défis à relever, notamment celui de la transition écologique, il est nécessaire que l'État stratège, de temps en temps, mette la main au porte-monnaie pour investir dans les technologies d'avenir. Et donc ce plan, c'est finalement innover, produire pour protéger notre modèle social.
30 milliards, ils viennent d'où? Comment sera-t-il financé ce plan?
Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines dans le cadre du projet de loi de finances. Ce plan sera financé dans le cadre du budget de l'État. Donc budget qui est alimenté...
Parce que pour l'instant, le projet de loi de finances, le plan n'y figure pas. Ce qui fait dire au Conseil des finances publiques que voilà, le budget est très difficile à lire, voire un peu mensonger.
Effectivement, le gouvernement portera sans doute un amendement pour faire passer ce plan, mais il faut vraiment voir ça comme un investissement. Il y aura un retour sur investissement qui sera bien supérieur que les 30 milliards d'euros qui ont été investis. Encore une fois, ce n'est pas de la dépense récurrente, c'est un investissement qui va porter ses fruits dans les années qui arrivent.
Un milliard pour le nucléaire, alors en lançant les questions aux auditeurs, j'ai posé cette question, énergie d'avenir ou pas? Que dites-vous? Énergie, oui, d'avenir et pour des décennies, le nucléaire en France?
Oui, bien entendu, puisque vous savez qu'on a l'objectif de décarboner notre économie, nos modes de production, nos modes de consommation, et donc on a non seulement besoin des ENR, des énergies renouvelables, naturelles, mais qui sont des énergies par nature qui sont intermittentes et limitées. Et on a besoin, en complément de ces ENR, d'une source constante et puissante de production d'énergie. Et c'est là que le nucléaire rentre en jeu. C'est la seule énergie pilotable et décarbonée. Quand on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Et c'est une énergie, contrairement à ce que croient 70% des Français, qui est totalement décarbonée. La fumée que vous voyez sortir des réacteurs nucléaires, ce n'est que de la vapeur d'eau, ce n'est pas du tout du carbone ou de la pollution.
L'argument du climat est donc l'argument numéro un pour continuer à investir dans le nucléaire.
Bien entendu. Alors l'argument du climat, l'argument de l'autonomie stratégique, on a vu à quel point pendant la crise l'autonomie stratégique était importante. L'argument économique, le nucléaire c'est 200 000 emplois, et l'argument également de l'énergie bon marché pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour accompagner cette stratégie productive annoncée par le président de la République.
Est-ce qu'on reste sur un objectif de passer de 75 à 50% du mix énergétique en 2035 en nucléaire? Donc baisser tout de même la part du nucléaire dans le portefeuille.
Exactement.
On
maintient cet objectif, sachant que la consommation en électricité va fortement augmenter, non seulement du fait des usages, mais également du fait de la décarbonation des usages. On va moins consommer de pétrole pour nos voitures. On va décarboner l'usage en passant sur l'électricité. Et donc, on estime que si aujourd'hui l'électricité, c'est uniquement 25% de l'énergie consommée en France, progressivement, on va passer à 50%, voire plus.
Vous ne misez pas, cela veut dire quand vous nous dites la consommation va augmenter, vous ne misez pas aussi sur ce que demandent certains économistes, même la sobriété. J'ai le message de Manuel qui dit oui, le nucléaire énergie de transition décarbonée incontournable, il dit transition, mais pour économiser l'énergie, utilisez vos objets plusieurs fois, voitures, vélos, vêtements, bref, misez sur la sobriété. On écarte la notion de sobriété, Thomas
Gassilou? Pas du tout, je crois que Manuel a raison. La seule énergie propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Le nucléaire, les panneaux solaires, produisent des déchets. Et donc, si on veut tendre vers un comportement plus vertueux, effectivement, il faut optimiser, modérer notre consommation électrique, par exemple au travers de l'isolation, au travers des transports collectifs. Mais malgré tout, nos usages, notre vie quotidienne, notre vie nécessite de l'énergie. Et donc, on a besoin des ENR, on a besoin du nucléaire pour accompagner nos usages du quotidien.
Allez, le standard de France Inter. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Vous habitez près de Bure, dans la Meuse. Nous vous écoutons, Bure, où les antinucléaires sont nombreux. Nous vous écoutons.
Oui, bien bonjour. Outre la dangerosité de cette énergie passée sous silence, je demande comment considérer le nucléaire comme économiquement viable. On regarde du coût faramineux d'une installation de centrale, des dizaines de milliards d'euros auxquels on ne pense pas forcément pour investir dans le démantèlement, et des dizaines de milliards d'euros aussi pour la gestion des déchets, ce qui signifie d'ailleurs au passage que vous avez déjà avalisé le projet fumeux CGO et que l'enquête d'utilité publique actuelle n'est que du pipeau. Donc vous êtes très fort pour corrompre les collectivités, ça continue. Donc pour mettre une pression terrible au niveau des opposants, et je trouve que c'est vraiment lamentable sur le plan de la démocratie.
Alors, CIGEO, c'est l'enfouissement des déchets nucléaires. Merci Patrice pour ce témoignage. Je retiens la fuite en avant économique, Thomas Gassilou. C'est vrai que le nucléaire, c'est des milliards et des milliards. Alors, sans parler de l'EPR dont le coût a explosé de 3 à 19 milliards en 10 ans, cette fuite en avant du nucléaire qu'on ne maîtrise pas, pour dire les choses clairement.
Alors, si on le maîtrise. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fin
du
mois...
Vous êtes sûr qu'on maîtrise le coût du nucléaire au fil des décennies ?
Bien entendu, on le maîtrise. Monsieur parlait du coût. Oui. Bien entendu, que ce soit les questions de démantèlement, de recyclage, sont pris en compte dans le coût du nucléaire. Tout ça est audité. Donc le nucléaire est parfaitement maîtrisé, et notamment en France, où on a des organismes indépendants, notamment, qui gèrent les questions de sûreté. Ensuite, il y a une deuxième question qui est posée au travers de CIGEO, puisque ouais, monsieur a
dit l'enfouissement des déchets.
Effectivement, donc je comprends son inquiétude. Il a cité une enquête publique qui a lieu en cours, ce qui est bien une démarche de transparence et de questionnement de l'ensemble des parties prenantes dans ce projet, notamment des riverains.
Beaucoup de gens disent que les conclusions sont déjà écrites.
Ah bah non, s'il y a une enquête publique, les conclusions ne sont pas écrites. Et je peux vous dire que je suis allé auditer pour ma part les conditions dans lesquelles on gère les déchets. On a un attachement extrêmement important, extrêmement méticuleux à ce que ces déchets soient vitrifiés, mis dans des emballages métalliques, enfouis sous terre, pour que pendant des milliers et des milliers d'années, il n'y ait aucun risque pour la nature.
Donc la solution, c'est l'enfouissement ou c'est l'exportation en Russie des déchets ?
Ah non,
comme ça se pratique à nouveau ?
La France a toujours été, à ma connaissance, totalement autonome dans la gestion de ces déchets. C'est le pays en pointe au niveau mondial sur le multi-recyclage. Il y a le site de La Hague qui nous est envié par de nombreux pays. Donc s'il y a bien un sujet sur lequel la France est en pointe, c'est l'énergie nucléaire et notamment sur la gestion des déchets.
Il n'y a pas à nouveau d'exportation de déchets nucléaires vers la Russie ?
À ma connaissance, il n'y a aucune exportation de déchets nucléaires vers la Russie. Il y a les Allemands, à un moment donné, qui nous ont envoyé quelques déchets pour qu'on puisse les retraiter, mais ces déchets ont vocation à retourner en Allemagne.
Marc, au standard de France Inter. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà. Donc moi, je conteste l'autonomie énergétique parce qu'on dépend de mines d'uranium qui ne sont pas en France, que je sache. Et j'ai entendu dire que dans 10 ans, il n'y aurait plus d'uranium et ces mines seraient épuisées. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et deuxième question, par rapport au réchauffement climatique, si la température augmente beaucoup, il n'y aura plus d'eau dans les rivières pour refroidir les centrales. Est-ce qu'on y a pensé à ça, ce petit détail ?
Merci,
parce
Marc.
Que je me souviens juste deux secondes.
Oui, allez-y.
C'est qu'il y a à Chinon en 2019, dans la région à Saumur, il n'y avait quasiment plus d'eau dans la rivière. Alors voilà, donc deux questions sur l'autonomie réelle par rapport aux mines d'uranium. Et si jamais les djihadistes envahissent la région, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on prévoit tout ça, quoi, dans
Merci Marc. L'uranium vient en particulier du Niger et du Kazakhstan. Risque-t-on la pénurie au fil des années ?
Alors Marc a raison, on a fermé les mines d'uranium en France, donc on a une dépendance aujourd'hui de mines d'uranium, mais ce marché est extrêmement ouvert et nos fournisseurs sont très diversifiés. Vous avez cité des destinations, il y a également le Canada, il y en a d'autres. Et bien entendu, on fait des stocks pour être totalement autonome là-dessus. Ça, c'est la première question. La la diversification. Au-delà de la diversification, deuxième réponse que je peux apporter à Marc, on développe actuellement le nucléaire de troisième génération. Et dans le nucléaire de quatrième génération, le nucléaire suivant, on sera en mesure d'utiliser les stocks d'uranium appauvri que nous avons en France. Ces stocks qui sont l'issue finalement de 40 ans de production nucléaire. Et ces stocks pourraient nous donner plusieurs milliers d'autonomie énergétique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le nucléaire est un secteur où l'innovation continue. Et cette innovation va nous permettre de tendre vers l'autonomie énergétique. Et puis, il y avait une troisième question.
Sur le risque terroriste au Niger.
Je vous ai répondu, il y a aujourd'hui... une diversification des approvisionnements en termes d'uranium, et donc il n'y a aucune dépendance de tel ou tel pays, et par ailleurs, on sera d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années en mesure d'utiliser les stocks d'uranium appauvri que nous avons en France, qui va nous donner plusieurs milliers d'années d'autonomie énergétique.
À propos de nucléaire future génération, pas d'annonce de nouvelles constructions d'EPR dans le discours du président de la République ce matin.
Effectivement, aujourd'hui, les annonces étaient focalisées sur les SMR, donc ce sont les petits réacteurs modulaires, où effectivement il y a une révolution technologique qui est en cours. Concernant les EPR, RTE va annoncer ses scénarios d'ici la fin du mois, et peut-être que après, une fois que ces scénarios seront annoncés, le président aura l'occasion de faire l'annonce à l'échelle des EPR. Mais
donc l'hypothèse de construction de nouveaux EPR n'est pas totalement écartée. Mais
aujourd'hui, je crois que personne de sérieux n'exclut cette hypothèse. Encore une fois, concernant du fait de notre volonté d'avoir une énergie totalement décarbonée, ça ne peut pas se faire uniquement sur la base des énergies renouvelables. Encore une fois, les énergies renouvelables, c'est bien, mais ça marche quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Or, les métros, nos hôpitaux, notre vie quotidienne, ça doit également, ça consomme de l'énergie, y compris quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Et malheureusement, l'électricité, aujourd'hui, on ne sait pas la stocker massivement.
Quelle réponse, Thomas Gassilou, à cette réalité que le drame de Fukushima a rappelé? Le nucléaire, quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Et un accident peut arriver à tout moment et créer, avoir des conséquences ravageuses.
Bien entendu, le nucléaire a bien des qualités, mais il a deux défauts majeurs qu'il faut corriger petit à petit. Les déchets, on en a parlé, et le risque. Alors, ce que je peux dire concernant le risque, en France, il est extrêmement suivi au travers notamment de l'IRSN, qui est un institut indépendant qui met un très haut niveau d'exigence en matière de sûreté pour que le risque soit infinitésimal. Et le deuxième point que je voudrais vous indiquer, c'est que concernant les énergies fossiles, on sait de manière certaine que chaque année, il y a 50 000 morts par an liées à la pollution atmosphérique. Donc certes, on a un risque infinitésimal concernant le nucléaire, il ne faut pas le nier, mais face à ça, les autres sources d'énergie que vous pouvez consommer produisent des dégâts beaucoup plus importants. Encore une fois, il n'existe pas d'énergie propre. La seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas, d'où l'intérêt de faire des efforts pour modérer notre consommation.
Autrement dit, quand on est un élu de la nation comme vous, quand on est un décideur public, on prend cette décision d'investir et de prolonger les investissements dans le nucléaire de manière sereine malgré les risques lourds qui existent.
Vous savez, quand on est élu, on prend des décisions qui amènent des risques en permanence. Et donc, Machiavel lui-même disait la bonne décision n'est pas un choix entre le pire et le mal, mais entre le pire et le moins mal. Mmh. C'est-à-dire qu'on arbitre entre l'ensemble des critères qu'on a et les objectifs qu'on a, et notamment un des objectifs importants pour la France, c'est l'autonomie stratégique, c'est l'énergie bon marché pour l'ensemble de ses entreprises et l'ensemble de ses citoyens. Et je crois que le nucléaire, quand on prend en compte l'ensemble de ces critères, est une bonne réponse.
Merci Thomas Gassilou, député Agir du Rhône, d'être venu dans les studios de France Inter après donc la présentation de ce plan France 2030 d'Emmanuel Macron, qui prévoit notamment 1 milliard sur les 30 milliards consacrés au nucléaire et à ses plus petites centrales. Pas d'annonce concernant les EPR, on verra si c'est le cas dans les semaines à venir. Merci à vous.